Frères et sœurs, nous venons de fêter, il y a quelques jours, l'Ascension du Seigneur. Pour saint Luc, qui est seul ou presque à rapporter l'événement, cette fête marque la fin d'une époque, celle des apparitions de Jésus sur notre terre. Mais pour le même saint Luc, cette fin-là n'était pas la fin de tout. Jésus l'avait expliqué à ses apôtres, dans les actes, nous entendons, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descend sur vous. Et bien voilà précisément ce que nous célébrons maintenant aujourd'hui, 10 jours plus tard. Pas simplement un événement ponctuel. En fait, une nouvelle étape qui commence. Et le mot est revenu plusieurs fois dans l'Évangile, le temps du témoignage, grâce à la présence de l'Esprit. Une époque donc qui dure encore et dont nous éprouvons sans cesse sans doute la difficulté. En effet, on se pose toujours ce genre de questions. Que dire? Comment dire? À quel moment dire? Eh bien, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est justement le rôle de l'Esprit-Saint d'y répondre. Il est en effet ce que l'on appellerait volontiers aujourd'hui un grand communicant. Voyez. En premier lieu, il établit la communication du Père et du Fils jusqu'à l'homme, ce dont il est question dans l'Évangile que je viens de vous lire. Il rendra témoignage. Il vous conduira vers la vérité tout entière. Il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. En entendant cela, je me suis dit que si certains regrettaient peut-être, ça nous est peut-être arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé, de ne pas avoir connu Jésus sur cette terre, de n'avoir pas été parmi les premiers disciples, eh bien je me dis qu'en fait nous n'avons rien à regretter. Après ce départ de Jésus pour le ciel, en fait, nous n'avons rien perdu. L'Esprit-Saint, en effet, est là précisément pour nous mettre en contact avec Jésus et pour nous révéler tout ce qu'il y a de plus profond en lui dans son mystère. En deuxième lieu, l'Esprit établit ou rétablit la communication entre les hommes. Ce dont il est question dans la première lecture. Mais là, il faut revenir un peu en arrière pour s'expliquer un peu. Il faut en effet se souvenir que lorsque Luc, dans les Actes des Apôtres, retrace à sa manière l'événement de la Pentecôte, il le fait très certainement en référence à l'épisode de la tour de Babel. À cette époque, nous dit le narrateur du livre de la Genèse, tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Et les hommes cherchaient en outre à faire un seul peuple pour éviter la dispersion. Vous irez voir le chapitre 11 du livre de la Genèse. C'était une magnifique situation a priori. Et pourtant, voici que Dieu, nous dit-on, vient confondre, c'est un mot qu'on retrouvera chez saint Luc, vient confondre les constructeurs de la tour de Babel. Que s'est-il passé? Dieu serait-il jaloux? La réalité est tout autre. Lorsqu'on examine de près ce texte, on se rend compte que les hommes voulaient, une fois de plus, monter au ciel par leur propre volonté. En fait, devenir Dieu à la place de Dieu. Et finalement, sans Dieu. Adam et son péché d'orgueil étaient donc de retour. Et vous savez bien que Adam et son péché d'orgueil sont toujours de retour aujourd'hui. Avec tous ceux qui, grâce à la technologie qui a remplacé les briques cuites au feu, pense monter tout seul vers Dieu et prendre sa place. Or, la Pentecôte vient nous redire que la vraie manière de monter au ciel, de retourner à Dieu, est tout à la fois de travailler à l'unité, tout en acceptant la diversité des peuples, langues et nations. Diversité et communion ensemble, avec des moyens humains, ce que la technologie est incapable de réaliser, mais ce que l'Esprit Saint permet d'obtenir en nous. Et qu'atteste cette phrase, tirée des Actes des Apôtres, « Tous les entendaient rapporter les merveilles de Dieu dans sa propre langue. » L'affirmation de Saint-Luc est quelque peu ambiguë, on ne sait pas exactement si les apôtres ont changé de langue pour être entendus dans les différentes langues, ou s'ils ont parlé toujours la même langue, mais que les auditeurs les entendaient dans leur propre langue. Peu importe, en définitive, ce qui se passe à la Pentecôte, c'est que les hommes, tous les hommes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue, se parlent et se comprennent. Et ils sont là, rassemblés dans l'unité. Voilà le grand événement de la Pentecôte. La Pentecôte invite à franchir les barrières de la langue, de l'éducation, des traditions religieuses. Et je vais le dire avec les mots du pape François, à créer des ponts plutôt que des murs. Il faut quand même le reconnaître, la tâche est délicate, difficile. Les aspérités dues aux différences ne se gomment pas, et d'ailleurs elles ne sont sans doute pas à gommer. Elles sont à harmoniser dans une unité plus grande, plus haute. Et pour cela, il faut du temps, de la confiance réciproque, de la confiance en Dieu. Il faut surtout l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous chantons en ce jour le Veni Sancte Spiritus. Nous avons tout à l'heure chanté le Veni Creator. Le Veni Sancte Spiritus, c'est le grand hymne aussi comme analogue un peu au Veni Creator. Et je vais vous citer pour terminer quelques phrases de ce Veni Sancte Spiritus, en vous invitant non seulement à l'entendre ce soir, mais à le reprendre souvent chez vous. Je vous jure que ça fait du bien et que nous en avons besoin. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne le mérite et la vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen.